pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de à saccager les pions. Avec des mitraillettes, il y a du baston dans la tour. Il y a du baston dans la tour. Il y a du baston dans la tour. Mais les mecs, ça va se. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Écoute de l'envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Donc pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité 75019 Paris, l'envolée-FPP. Pour nous appeler, donc en direct, c'est le 01 40 05 06 10.
01. Non, ouais. C'est 01 40 05 06 01.
Ah, pardon. 01 45. 40. Redis-le.
01 40 05 06 01.
Tu le dis beaucoup mieux que moi. Okay. Et pour nous appeler quand ce n'est pas en direct, c'est au 07 52 40 22 48. Et ce soir, on est content parce qu'il y a plein de monde et des gens qu'on ne voit pas tous les vendredis ici dans le local. Donc, il y a Elsa.
Salut.
Il y a Greg.
Salut tout le monde.
Il y a Floréal qui va nous présenter un bouquin en plus ce soir.
Ouais, salut.
Il y a Steph.
Salut à tous et à toutes.
Il y a Pierrot.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Et il y a Serge au vocal.
Salut à tous et à toutes.
Il y a moi, Arthur, voilà, qui vous fait coucou. Donc je crois, Ralph Lowe, tu voulais vite fait introduire le bouquin.
Mais carrément, carrément. Bon, ouais, on est super contents. On est super contents d'être là, quoi, dans ce studio. Aujourd'hui, on salue toutes les prisonnières et tous les prisonniers. Alors... ce soir, d'abord chapeau, la S. Eh ouais, la S, il a sorti son bouquin. Ouais, bref de prison à lire absolument. C'est vraiment hyper drôle. On l'a refeuilleté là, franchement. Les éditions Lapigne, c'est quand même Jean-Marc Delpech. Jean-Marc Delpech, c'est un bon connaisseur de Marius Jacob. Marius Jacob, on le salue, cambrioleur. Voleur, prisonnier, qui a écrit sans doute les plus belles choses sur la prison. Hein, c'est pour nous, c'est important à l'envoler. Et voilà, lui, il a écrit donc ce bouquin, la bio de Jacob. Hein. Et donc, voilà, donc, de temps en temps, je vais faire des petites blagues tout au long de cette émission en lisant quelques brèves de l'AS, parce qu'il est un peu avec nous ce soir. Donc, les éditions Lapping, brèves de prison. Pour ceux qui sont dehors, achetez-le. Pour ceux qui sont dedans, faites-vous offrir le livre par les gens dehors. Il faut lire ça, il faut que ça tourne en prison, cette histoire. C'est super, c'est une vraie parole de l'intérieur, ce bouquin. C'est des petits strips en trois cases, il défonce tout, voilà. Allez.
Et ça se trouve sur l'Internet, non, aussi?
Sur l'Internet, dans toutes les bonnes librairies. Lapping, il doit avoir un site Internet, on peut le commander dessus, voilà.
Ouais, mais je voulais dire, ce qu'il a fait à la base, on le trouve sur un blog, non?
Ouais, il y a un Tumblr qui s'appelle Bref de prison, où on peut trouver les strips qui sortaient un par jour.
Exact.
Et il était venu au début, à la rentrée, là, en septembre et tout ça. Il avait fait 2-3 émissions ici. Et puis bah, là, on va en refaire avec une. Enfin, voilà. L'invitation officielle n'est pas encore lancée. Mais je pense que dans 2 semaines, il sera avec nous. Enfin, voilà, si c'est prévu, en tout cas. Donc, voilà. On passe peut-être au programme de l'émission.
Du coup, ce soir, on va lire quelques lettres de prisonniers qui nous écrivent assez régulièrement ces derniers temps. On va donner des nouvelles de Michael, des nouvelles de l'infâme et une lettre de Y, voilà, donc, qui nous a déjà écrit, là, qui a une assez longue lettre. Et à partir de cette lettre, on va discuter de trucs dont on parle en fait depuis assez longtemps, là, des violences pénitentiaires, à la fois donc ce soit les morts suspectes dont on a pas mal parlé ces dernières semaines, mais là la lettre de Youssef va nous faire aborder pas mal de trucs, enfin aussi la violence ordinaire en fait de la détention et tout ça, et donc on va revenir un peu sur les différentes histoires et les différentes personnes qu'on a rencontrées là ces dernières semaines, ces derniers mois autour de ces questions. Et puis après, on aura un billet d'humeur sur l'ambiance sécuritaire du moment, de Steph, et à partir duquel on discutera. Et puis après, on a quelques brèves, des trucs, Saïs, ils ont, je crois, gagné un truc sur les parloirs hygiaphones, et des petites brèves à la fin pour compléter. Et du coup, on va commencer
aussi par une petite brève avant les lectures de lettres du ministre des Tribunaux et des Prisons, quand même, qui, cette semaine... a avoué
Super Dupont-Moretti
qui a avoué dans un débat en fait télévisé, en répondant après la polémique que tout le monde a vue en fait à la télé entre le débat fameux entre le virus et son variant, à savoir Marine Le Pen et Darmanin, qui étaient dans leur compétition électorale et pré-fasciste. Et là-dessus, Éric Dupond-Moretti a amené à réagir à une phrase de Darmanin qui disait que Marine Le Pen était un peu molle. Donc on voit vraiment où se situe la période et vers où on va dans l'année et demie qui vient. Hein. C'est un peu important parce que c'est ce qu'on va se taper quand même. il dit à Marine Le Pen qu'elle est molle. Tout le monde polémique là-dessus dans les médias. On s'en fout. Tout ça est un coup de com'. Mais là-dessus, Éric Dupond-Moretti, amené à ramener la vérité des chiffres, répond que Marine Le Pen dit de la merde. Et qu'à force de dire qu'il y a eu 10 000 personnes, plus de 10 000 prisonniers qui ont été libérés, on va faire croire à la terre entière que, en fait, pendant la période du Covid, l'État a libéré des prisonniers et des prisonnières. C'est faux, dit-il, et actant cette fois-ci que ça n'a été que de la communication, puisqu'il dit texto, on a libéré 6 000 personnes qui étaient toutes à un mois de leur fin de peine, qui auraient été libérées, Covid ou pas, un mois plus tard. Donc il dit... Ce qui est dans le numéro de 52 de l'envolée, et si c'était dans le numéro de 52 de l'envolée, le numéro censuré actuel, qui circule pas en détention, mais qui circule dehors, on l'espère, dans ce numéro-là, on revenait sur tous les témoignages des prisonniers qu'on avait longuement fait entendre à l'antenne pendant tout ce premier confinement de l'année dernière, qui disaient tous « on ne voit pas les gens sortir, ça n'est pas vrai, les gens ne sortent pas, tout ça c'est de la com', et il y a un décalage monstre entre ce qu'on entend dans les médias, pour humaniser un tout petit peu le gouvernement à ce moment-là, en disant on ne laisse pas crever les prisonniers à l'intérieur, et ce qui se passe dans les faits. Et dans les faits, tout le monde disait, à partir du moment où tu n'es pas à un mois de ta fin de peine, tu ne sors pas, ce n'est pas vrai, tu peux même déposer une demande, tu peux faire ce que tu veux, tu ne sors pas, ce n'est pas vrai, ça n'arrive pas. On ne parle même pas des gens qui avaient des peines de 10, 15, 20 ans, ou des gens qui demandaient des aménagements depuis 4 ans et qui n'en ont toujours pas, et on ne parle pas non plus des malades ou des gens qui étaient en détention et qui demandaient à sortir pour ne pas crever à l'intérieur. Bref. Des prisonniers n'ont cessé de le dire, personne à l'extérieur ne voulait l'entendre, puisque la com' gouvernementale, c'était « on libère et on vide les prisons ». Et aujourd'hui, la com gouvernementale en période sécuritaire préélectorale a un petit peu changé. Du coup, il s'agit de redire en fait la vérité des chiffres de l'époque. Et la vérité, c'était 6000 personnes. Pas 10, pas 12, pas 15, comme on l'a entendu. Voilà. Et là, c'est Éric Dupond-Moretti qui dit « Non, mais peut-être que Belloubet disait ça à l'époque. » Et du coup, peut-être que Marine Le Pen fait sa com là-dessus. Mais elle, elle a pris au sérieux des chiffres faux qui n'ont jamais été vrais. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé cette semaine. C'est très, très important.
Et encore une fois, c'était les prisonniers qui avaient raison.
Mais encore une fois, la parole comme, qui sortait de l'intérieur disait la vérité de ce qui se passe en prison. Voilà. C'était pour introduire généralement.
Et pour introduire la surenchère répressive qu'on va se manger encore pendant des mois et des mois. Et là, ils sont en train de ressortir les muscles en mode « c'est nous les plus durs avec les méchants ». Quoi.
D'ailleurs, on peut le dire, Marine Le Pen est une fasciste. Je dis ça parce que... Jean-Luc Mélenchon a dit ça dans un discours il y a quelque temps, et il y a eu un procès. Il y a eu un procès pour diffamation de Marine Le Pen. Procès qu'elle vient de perdre. Elle vient de perdre parce que fasciste n'est pas une insulte d'après les juges. En fait, c'est juste une catégorie politique. Donc on a le droit de dire ça. On a le droit de dire à quelqu'un maintenant qu'il est fasciste. C'est pas du tout un problème. Ça dit quelque chose de l'époque. Quand même aussi, hein.
Peut-être même qu'on a le droit d'être fasciste. Le problème, c'est d'être islamo-fasciste.
Alors, le problème, c'est que cette époque considère que le fascisme est une option politique possible.
Possible.
Donc
oui.
Ça, c'est un vrai problème, mais ça, on met le doigt sur un truc. Mais en même temps, on a le droit, du coup, nous, de dire à cette antenne, sans être condamnable forcément, de dire, par exemple, prenons un exemple.
Au hasard.
Genre, des matons sont fascistes.
Dans l'échiquier politique, tu veux dire.
Mais c'est une position politique. Ces gens... ont une position politique, un héritage politique, ils le revendiquent peut-être, ils appartiennent peut-être à des groupuscules politiques, ils appartiennent peut-être à des groupes politiques qui ne sont même pas des groupuscules, peut-être même à des rassemblements quelconques, ils existent peut-être syndicalement même, et même peut-être qu'ils peuvent être à la fois syndiqués et à la fois membres de groupuscules politiques et être fascistes, en tant qu'option politique, évidemment.
À moins qu'on se trompe, peut-être voilà. Qu'ils ne sont pas dans des groupes de cette obédience politique-là.
Peut-être pas, mais peut-être qu'ils le font de manière complètement indépendante.
On passe aux lectures de lettres.
Ouais, et donc on va commencer avec une lettre de Mickaël. Mickaël, on avait lu plusieurs de ses lettres là, ces derniers mois, notamment un texte assez fort qu'il avait écrit qui s'appelait Santa Muerte, en référence à la centrale de Saint-Maur où il est à l'isolement, où il parlait justement pas mal de comment... l'administration pénitentiaire te pousse à bout pour te pousser à en fait forcément à devenir à péter un câble et pour après te foutre des peines internes et t'enfermer à vie. Bref, c'est un texte qui s'il n'est pas sur le site le sera très très prochainement, mais que en tout cas on avait lu à cette antenne avec ainsi que d'autres lettres et là du coup Elsa va nous lire une nouvelle lettre de Mickaël.
OK. Salut. Mon isolement a été prolongé jusqu'au 4 mars. Deg. La guerre administrative, ça veut dire qu'à la place de me battre avec mes poings contre eux, maintenant je fais des recours au tribunal. D'ailleurs, ils m'ont pris le magazine L'Envolé, soi-disant c'est interdit, MDR. Bref, l'ambiance ici est tendue, surtout depuis la fouille avec les gendarmes et les chiens, mais je tiens bon et continue mon combat pour mes conditions de détention. Bon, j'en reste là pour ce soir. Merci à tous, merci pour tout, prenez soin de vous.
Ouais, on lui souhaite vraiment plein de force et tout ça. Et... Enfin voilà, l'isolement, c'est vraiment. Enfin, on en a parlé des heures et des heures à cette antenne. Voilà, c'est aussi l'occasion de filer un gros big up à Fabrice Papillon. Voilà, c'est des vraies peines punitives l'isolement. Et c'est très très dur de se battre contre ça. Il y a peu de recours qui sont possibles et tout. Et on lui souhaite plein de force et plein d'énergie.
Ouais, parce que ouais, le truc auquel il fait référence, je crois, dans la dernière lettre, on avait parlé de la grosse fouille ultra vénère qui s'était mangée. Et ça fait parler, mais on va en parler plus tard. Mais en fait, c'est ces violences pénitentiaires quotidiennes, en fait, au-delà des violences où les gens meurent. Mais en fait, les trucs qu'on a entre la MAF des Baumettes, enfin, je sais pas, les derniers mois, on a eu que des histoires de fouilles abusives, de fouilles où, en fait, il y a quasiment, enfin, il y a des agressions sexuelles, en fait, sur les personnes qui sont mises à nu ou des fouilles systématiques qui, en fait, à la sortie du parloir, qui font qu'en fait, t'es dégoûté même de ton parloir à chaque fois. Enfin, qui, voilà, ça fait partie de la violence vraiment, bref, ordinaire. Et maintenant, je vais vous lire un morceau de lettre de l'infâme. Donc l'infâme, on en parle souvent, pareil, bah, lui aussi on lui passe un gros big up parce que lui aussi il a l'isolement et ça fait un sacré moment. Et a priori, bah, tant que la paix décidera, il va pas en sortir tout de suite. Et là il nous parle en fait, donc on en a dit récemment, il a été à Vendin, ça se passait hyper mal, et là il a été transféré à Valence. Il y a quelques semaines, et du coup là il raconte son transfert et il explique comment en fait à Vendin ils ont bien essayé de lui mettre à l'envers, en fait de lui refoutre un transfert disciplinaire avec tous les rapports d'incidents là qui lui collaient en inventant des trucs, et donc ils ont réussi à l'envoyer à Valence sur un motif disciplinaire. Alors je vais vous lire l'extrait de la lettre où il nous raconte ça. Alors tout d'abord parlons du transfert. Tout d'abord, je m'attendais certes à être transféré, mais pas comme ça, et pas vers Valence, mais vers Poissy. Comme je l'avais dit dans mon précédent courrier, mon baveux avait fait un recours pour annuler le transfert vers Vendin, ce qui aurait amené une réaffectation vers la prison où j'aurais dû aller à la base, au lieu de Vendin, qui était Poissy. Et tu vois, avoir été transféré par mesure d'ordre et de sécurité, MOS, c'est-à-dire un transfert disciplinaire, ça a été une manière pour le directeur de Vendin d'essayer de me la mettre à l'envers. Et en un sens, il a réussi son coup, mais qu'à moitié. Car sur la procédure en elle-même, ça ne change absolument rien. Bien qu'étant à Valence, il faut juste la modifier un peu. Mais fondamentalement, on se base sur les mêmes...
Suspense.
Ah, les mêmes arguments que sur la procédure précédente. Et Vendin n'y peut rien, car les fautes ont été commises par l'Annemezan. Donc oui, pour rappel, avant, l'infâme était à l'Annemezan, il s'est fait transférer à Vendin, donc je crois en septembre ou en octobre. On avait raconté un peu ce transfert assez vénère aussi à l'antenne. Donc Vendin, en me transférant à Valence, n'a fait que retarder l'inévitable. On repart juste d'un peu plus loin en termes d'attente, puisque le dossier va être modifié en conséquence. La seule vraie enculerie que Vendin m'a faite, en vérité, c'est vouloir me faire payer une partie de mon pactage laissé là-bas, plus de 400 euros. Mais de 1, je suis pas le Père Noël, ni un pigeon, ni même Crésus. De 2, je sais pas s'il croit au Père Noël, le directeur de Vendin, mais si c'est le cas, faut lui dire qu'il n'existe pas, ça lui évitera d'espérer pour rien. Et de 3, tout bonnement, n'étant pas d'accord de cette énième enculerie, bah comme d'hab, tribunal administratif et recours. Bah ouais, il croyait tout de même pas que j'allais accepter l'inacceptable. Si ? Bah oui, il va être sacrément déçu lorsqu'il verra le résultat, mal lui en prenne. Une fois n'est pas coutume, il l'a cru faire cela de manière intelligente, mais dans le seul but de me nuire, mais il ne fait que nuire à lui-même, par lui-même. Tu comprends maintenant pourquoi la direction de Vendin a préféré me transférer ici, à Valence, plutôt que laisser le temps passer, car s'il avait laissé passer le temps, c'est-à-dire le temps que le TA rende sa décision pour être réaffecté sur Poissy, j'aurais été réaffecté sur Poissy si j'avais pas été transféré, car le TA aurait à coup sûr été dans mon sens, et bien actuellement, je serais quasi dehors, alors que, restant en statut central, cet espoir de quasi être dehors s'éloigne un peu, car la procédure, même modifiée, va repartir de zéro. Après, le résultat sera au rendez-vous, mais sachant que j'avais déjà fait 6 mois à Vendin, la décision de réaffectation serait tombée au max sous 6 mois, c'est-à-dire vers juillet, maxi, et bien là, on repart de zéro. En gros, les 6 mois passés à Vendin n'ont servi à rien, mais bon, c'est comme ça, je prends sur moi et je vais de l'avant. Donc je me dis, quitte à ce qui se passe entre 6 mois et 1 an avant que la décision du TA pour la réaffectation tombe, autant que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. C'est ce que je veux réellement, et pas que pour ici, pour partout où je peux aller.
C'est un courrier qui, je pense, pour beaucoup de gens, est évidemment compliqué à comprendre. Mais s'il est compliqué à comprendre, c'est pas pour rien. C'est vraiment parce que notre ami l'infâme se retrouve dans une situation où l'administration pénitentiaire en a marre. On a marre qu'il ouvre sa gueule, on a marre qu'il parle, on a marre qu'il conteste ce qui lui arrive, sur tous les plans. C'est-à-dire qu'à la fois, il rend public ce qui lui arrive, et là, il fait des recours. C'est-à-dire, et il demande des transferts pour éviter de lui donner les transferts qu'il voudrait obtenir lui, et pour le faire perdre du temps, en fait, on le transfère de manière punitive, en fait. C'est des transferts qui ne sont pas... disciplinaire chacun, c'est-à-dire qu'à chaque fois le motif de sécurité qui est invoqué pour chacun n'a pas de valeur dans chacune des prisons, mais c'est un système de transfert systématique qui en lui-même est punitif. Et l'idée n'est pas que dans telle prison il ait fait ceci qui justifie d'aller dans telle prison, c'est il faut qu'en permanence il soit baluchonné. Voilà. Et ça, c'est une technique ancestrale, hein, qui date de l'administration pénitentiaire, qu'elle sait très 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 bien faire. Et elle le fait très très bien, Quand on dit très très bien, attention, hein, on ne dit pas que évidemment c'est bien. Elle le fait très très bien pour servir ses intérêts, à savoir qu'il n'y ait pas de contestation à l'intérieur. On est d'accord. Mais elle le fait très très bien dans le sens où c'est une administration. C'est-à-dire qu'elle gère ce truc et elle gère. Et qu'est-ce qu'elle gère? Elle gère du temps. Et en ce moment, ce qu'ils font à l'infâme, c'est exactement comme il le dit dans sa lettre. À un moment, il le dit deux fois. Et il dit en fait, à ce moment-là, 6 mois perdus à Vendin, c'est 6 mois. Mais c'est 6 mois perdus sur une peine globale, certes, mais ces 6 mois qui sont des 6 mois qu'il n'obtiendrait pas, en fait, qui sont des choses qu'il n'obtiendra pas sur une remise de peine, en fait. Ce qui fait que c'est des 6 mois qui l'éloignent de sa... C'est du temps, c'est comme si c'était une parenthèse, et qu'on lui dit, bah, en fait, ces 6 mois, en fait, ils ne comptent pas. Ils ne comptent pas, non pas parce qu'ils ne comptent pas dans sa peine globale, ils ne comptent pas parce qu'en fait, du coup, dans le cadre de ces transferts-là, etc., ça ne fait que repousser le moment où il peut espérer sortir.
Je pense que c'est ça qu'il faut expliquer de manière importante, c'est qu'en fait, quand tu te lances dans un processus avec le juge d'application des peines et tout ça, pour pouvoir sortir, voilà. Et donc, en fait, quand tu es changé de tôle, tu te retrouves à changer de jappe. Et donc, à ce moment-là, tout ce que tu as pu avoir commencé à faire auparavant, tu repars à zéro. Et c'est là-dessus où, en fait, les gens, ils ne peuvent pas non plus saisir... Enfin, voilà, c'est vraiment un truc du fonctionnement interne à la justice, quoi. Mais donc, tu repars à zéro chaque fois que tu es transféré parce que tu es de nouveau avec un nouveau juge d'application des peines. Donc, après, derrière, tu vas passer en commission CNE, tout ça. Enfin, tous les trucs. Mais, et donc, ces transferts-là, ils permettent à chaque fois... Et, voilà, et on sait que c'est des processus qui sont toujours très longs. C'est 2-3 ans, souvent plus. Voilà. Et c'est en ça où chaque transfert... En fait, d'une certaine manière, ça te rajoute 3 ans parce que tu reprends tout le process. Enfin voilà, on en a parlé longtemps pour Philippe et tout ça. Ces processus, ils sont hyper longs et tu reprends à zéro. Et donc un transfert, ça fait perdre du temps, comme il le dit, quoi.
Et après, c'est très simple qui se cache derrière des procédures bureaucratiques. Ça a jamais l'air d'être de leur fait, en fait. Ça a l'air, et c'est la procédure, etc. Donc c'est ça aussi la force et la perversité de cette administration. Elle se sert effectivement en permanence de ça, de ce jeu, en disant « on est une administration, regardez, c'est plus long, etc. » Alors que c'est des mécanismes qui sont volontairement mis en place pour casser, pour briser.
Mais qui ne sont jamais dit comme tels, évidemment.
Jamais.
Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, même humainement, en termes de rapport à la tôle, à chaque fois que tu es déplacé... Tu dois reprendre des attaches, recomprendre comment fonctionne la tôle, recomprendre quelles sont les règles de chaque tôle, puisque chaque tôle a ses propres règles, te refaire des contacts, te recréer des solidarités, refaire des demandes pour les ateliers, pour les autorisations. Tout est très long, tout est très long. Et en fait, c'est une façon de t'épuiser, de te casser et de te rappeler qu'en fait, il faut quand même que tu restes à ta place et que tu fermes ta gueule. Et moi, par exemple, là, on a un gars, là, il a 22 ans, il a 4 mandats de dépôt criminel, ils lui ont fait 6 tôles dans l'année. C'est parce que il a ouvert sa gueule à 18 ans, il est monté sur un toit à Nanterre pour demander son transfert, et donc depuis, ils lui font payer. Là, il est retombé. Bon, c'est vrai qu'il a 4 mandats de dépôt criminel, mais 6 transferts dans l'année, forcément, c'est tout ce qu'on a dit là, plus ce côté humain qui est cassé, et de permettre de pas avoir le temps de prendre tes marques.
Ouais, mais c'est exactement ce que tu dis, parce que l'histoire, enfin, de l'infâme, c'est aussi qu'ils lui font payer sa prise de parole, enfin le moment où il a, voilà, il a pris un moment des matons en otage, comme ils disent, pour exiger en fait un transfert. Et c'est exactement ce qu'on racontait avec Romain la dernière fois, où pour Romain carrément, là, la direction a reconnu que oui, en fait, on te fait payer ta prise de parole il y a 4 ans, bah tu continues à la payer, et en fait, où que tu sois, bah c'est ce que tu racontes, on te lâchera pas, et on va essayer. En fait, il y a un truc à la fois que les agents relaient vraiment sur le terrain. On sait, ils se passent le mot quand il y a quelqu'un qui arrive, genre il arrive, et bah vas-y, on va le cuisiner, on va le pousser à la faute, parce que le but effectivement, c'est qu'il continue ce circuit, là que vous avez bien décrit. Et juste pour préciser, ce qu'il dit ça dans sa lettre, et ça c'est quand même un truc de ouf que lui a fait le directeur de Vendin, c'est qu'effectivement une bonne partie des affaires de l'infâme sont toujours à Vendin et qu'il lui demande plus de 400 balles pour payer les frais de port pour faire venir 2 valises et un sac, quoi.
Les frais ça... de port, oui. C'est...
mais c'est exactement c'est ça, c'est-à-dire que tu passes ton temps, comme tu dis Greg, à prendre tes marques, à comprendre comment fonctionne l'administration là où tu débarques, à qui est JAP, qui est SPIP, comment fonctionne la direction, comment fonctionne le directeur de détention, etc., la direction de détention. Est-ce que c'est une prison dont on sort ? Est-ce que c'est une prison dont il faut, dans laquelle il faut faire des demandes pour un aménagement ? Quel type d'aménagement il faut faire ? Parce que ici, c'est pas ça qui marche, c'est ceci qui marche, etc. Et là, l'idée, c'est juste de repousser sine die, comme ils disent, hein, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire sans date de fin, le moment où tu peux te poser et tout. Et le but, c'est de dire, à force de ça, tu vas être fatigué, à un moment, tu vas te taire, tu vas te calmer, tu vas accepter de te poser quelque part. C'est un signe que l'administration pénitentiaire recevra au bout de 6 mois, 1 an peut-être, et finira par dire « Ah, tu nous donnes la preuve que tu t'es calmé et que tu arrêtes de nous faire chier, donc peut-être que de là où tu es en ce moment, on peut commencer à imaginer quelque chose pour ta sortie. » Quand bien même, tu es conditionnable. Hein. Quand bien même, c'est-à-dire sur le papier, tu es conditionnable. Parce que le conditionnable, c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'il faut faire entendre, qui est très compliqué, parce qu'on se bat contre une administration et dehors un monde qui passe son temps à dire que les gens ne font pas l'intégralité de leur peine. Et c'est faux, les gens font leur peine et bien souvent plus même que leur peine, quand des gens prennent des peines à l'intérieur en plus. Donc c'est beaucoup plus ça la réalité. Donc les gens font leur peine, mais ils font leur peine parce que précisément, quand bien même dans le droit ils sont conditionnables à ce moment-là, dans les faits, l'administration ne les laissera pas sortir. Et là, on est au cœur de la libération conditionnelle, qui est vraiment le truc qui fait que de plus en plus de gens vont au bout de leur peine et vont et sortent, et on les fait sortir gentiment sur des peines de 15-20 ans, on les fait sortir un an avant. Voilà, en disant comme ça, on peut dire, l'administration peut écrire dans ses chiffres, il n'a pas été en bout de peine, ou il n'a pas fait une peine de plus de 30 ans parce que ça ne se fait pas trop, c'est pas bien de faire ça, du coup, bah, on va faire semblant de un an avant, etc. Mais entre-temps, ça fait 5 ans que la personne est en train de se bagarrer en espérant qu'à l'étape d'après, elle pourra sortir. C'est ça la dynamique des longues peines.
Comme dirait la Hesse dans Bref de prison, il y a une question philosophique qui me taraude. Est-ce que ce sont les animaux aux os qui sont en zonzon? Ou est-ce que ce sont les mecs en zonzon qui sont aux os?
Peut-être juste pour conclure, moi j'avais une petite anecdote aussi, peut-être par rapport au fait que les plus rebelles et ceux qui font plus de prises de parole et qui dérangent, je pense notamment à... Ça m'a fait penser à Cyril Kider, là, qui a en tout cas essayé de faire évader son frère Christophe, qui partait sur une peine hallucinante. Et qui du coup se faisait transférer très régulièrement. Et du coup, quand il arrivait, les matons lui disaient « T'inquiète pas, on t'a à l'œil, on va te mettre la misère, etc. » Et je pense aussi que ça permet aussi à ce qu'il commence à vraiment être dans de la répression et dans du sale avec ces mecs-là. Et qu'arrive un moment quand vraiment ils sont pas loin de craquer et qu'ils leur mettent la misère, ils les ramènent ailleurs et que le jeu peut recommencer. Ils ont juste le temps de souffler, les recours sont pas encore vraiment faits, les mecs sont pas encore à bout et on peut recommencer ailleurs, de recommencer le même cirque avec toujours les mêmes techniques. Et ça, c'est vraiment très très crade. En tout cas, c'est bien huilé.
Ouais, juste avant de faire une petite pause, comme on disait, on va enchaîner avec une assez longue lettre qui va lancer une discussion. Et donc, avant de faire une petite pause, je vais lire une petite lettre de la même personne qui nous écrit un petit mot, mais qui est un peu plus récent. Voilà. Alors, salut l'équipe, merci pour la carte, c'est primordial et vital pour survivre dans cet univers carcéral malsain. Je ne lâche rien, j'ai trop subi, je mène différents combats en même temps, j'y laisse cependant quelques plumes, tant physiquement que psychologiquement. À plusieurs, nous sommes plus forts. J'espère être transféré car je suis au bord de l'implosion. On est entassés comme des bêtes, toute la misère humaine se cumule, un jour ou l'autre, ça va exploser. Il faut que les autorités, magistrats, politiques, que les gens se réveillent. C'est en bas de chez eux, c'est une véritable poudrière. Comment sortir indemne de ce merdier, poussé, acculé? Forcément, ça pète. Nous ne sommes plus, de toute façon nous n'avons jamais été, le pays des droits de l'homme. 19 condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, le pays le plus condamné. Ça doit quand même interpeller, choquer aussi. Ce ne sont que des mouroirs, rien d'autre. La réinsertion, c'est du bidon. Le maintien des liens familiaux, une fumisterie. Des mots, rien de plus. De la force à vous.
Et je crois que la chanson, elle est particulièrement pour lui. C'est Nesbill, chaque jour suffit sa peine.
Un, deux. Un, deux. papa, tape maman, mon cartable, ma tristesse, mon lit superposé, mes petits frères, ma jeunesse. On s'accroche au RER, la vie défile à toute vitesse. Courir, grandir, je me sens libre dans l'ivresse. Les sous, les soucis, au petit déj, j'en mange par centaines, devant la porte, les huissiers. Impossible de fuir les problèmes, aujourd'hui j'en rigole, à chaque jour suffit sa peine. Mariage, enterrement, des roses, bouquets, chrysanthèmes. La flemme de se réveiller, travailler, sécher les cours, mon destin correctionnel, tu seul sais ce que j'en cours. Un jour prochain, y'a plus de suspense dans mon parcours. Enfant des dunes, je peux pas stopper le compte à rebours. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ça meurt pas en silence, un homme qui se noie. La traversée du miroir, nos sourires. J'étais petit, j'avais peur dans le noir. Nuit blanche, dans ce couloir, je marche interminable. Et ce boulevard, j'écris de la main gauche. Dégueulasse, c'est mon buvard. Et dit tout d'aille pour écrire l'histoire. Une défaite, un exploit, à chaque jour suffit sa peine. Demain je trouve un emploi, tomber, se relever. Partir, tout le monde cherche sa voix. Un regard, l'amour, rentre dans ta vie sans le savoir. Ce monde, un grand mensonge, on cache les apparences. Un calvaire, du caviar, ça commence par une romance. Triompher, regretter, pas tant de souffler que ça recommence. À chaque jour suffit sa peine, on sera tous rois avec la patience. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Dans ce monde cruel, pas même nos souffrances.
À chaque jour suffit sa peine.
Tu vas tomber, te relever, jamais reculer. L'essentiel c'est que t'avances.
À chaque jour suffit sa peine.
Grosse dédicace, tout passe, seuls les murs restent en place.
À chaque jour suffit sa peine.
À chaque jour suffit sa haine. On trouve pas le bonheur dans l'oseille. À chaque jour suffit sa peine. Moi je respire à peine. Les keufs et les sirènes m'endorment. Sur moi Fleury ou à Fren, le daron fait l'éden. Et moi je traîne seul dehors. Eh eh en, oh oh oh. À chaque jour suffit sa peine. Eh eh en, oh oh oh. À chaque jour suffit sa peine.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Fréquence Paris Plus, pardon, Fréquence Paris Pluriel, FPP, sur le 106.3 FM, à l'écoute de l'émission de radio L'Envolée contre toutes les prisons. On vous rappelle que vous pouvez regarder le site internet de L'Envolée, on y trouve plein de trucs. C'est l'envolée.net, tout simplement. Et pour le reste, on vous dira plus tard. Floréal, tu voulais nous lire encore une petite brève de La Hesse ?
Comme dit La Hesse, j'ai lu mon horoscope ce matin. Il disait... Vous êtes enfermé dans la routine. J'ai l'étrange impression que l'univers est en train de se foutre de ma gueule.
Une lettre encore ce soir reçue de Y, une lettre assez longue qui revient donc, comme tu le disais Arthur tout à l'heure, sur la violence pénitentiaire et la petite violence quotidienne et ce que constitue ça que nous lit Y.
Donc c'est une lettre du 28 décembre 2020. Qui nous vient de la maison d'arrêt d'Angoulême. Allons voler. Je vous mets par écrit les faits, ceux qu'on m'a fait subir et ceux que je subis actuellement. Je peux vous dire que j'ai failli laisser la vie. Les dysfonctionnements et négligences sont nombreux et récurrents. J'ai 43 ans, j'ai des fragilités psychologiques que l'administration pénitentiaire connaît parfaitement. Je souffre d'aucune pathologie psychiatrique, je suis dans la catégorie état limite avec une anxiété importante et des angoisses dépressives importantes. J'ai un suivi aléatoire. Je galère pour mes soins, tant physiques que psychologiques. Au traitement inhumain et dégradant s'ajoute la torture. torture blanche, des menaces de représailles de la part d'une minorité de surveillants. Ils sont pas tous comme ça. Bavures et drames, entorses au droit et règlements sont légion. Des procédures non appliquées et des procédures abusives. J'ai aussi fait l'objet d'un article du journal local La Charente Libre, mensonger, et c'est avantageux pour eux seuls, les surveillants, où ils inversent les rôles, se font victimiser et pleurnichent aussi. Trop d'abus et mes droits les plus élémentaires sont bafoués, laissant place à une anarchie complète. Mardi 18 novembre, j'étais en forte tension psychique suite à quelques soucis familiaux graves cette semaine-là. J'avais un rendez-vous avec ma psychologue de référence. J'ai entendu et essayé de gérer cette détresse seule. Jeudi 19. Toujours aussi tendu, peu dormi et toujours pas vu ma psy. Vendredi 20. Au petit matin, après une insomnie, j'en pouvais plus. J'étais dans une grande souffrance. À 10h30, je décide de faire signe à un surveillant de mon étage. Il appelle son collègue de Luxa. Il l'a fait devant moi. Le surveillant de Luxa lui a répondu « C'est compliqué. » Encore à frein. Il me barre l'accès à l'infirmerie, me laisse à la dérive alors que j'ai un rendez-vous de Calais. Tout ceci aurait largement pu être évité. Ils m'ont laissé sciemment dans cet état et dans mes retranchements. J'ai pris tout un stock de médicaments. 45 somnifères, 32 antidépresseurs et 12 Seresta. Mon codétenu m'a vu m'effondrer. Il a immédiatement alerté. J'étais désespéré, d'où mon acte. Une infirmière sympa est venue en cellule. Elle m'a emmené à Luxa. Et elle a fait toutes les démarches pour me transférer d'urgence à l'hôpital de Giras, à Angoulême. Samedi 21, je me suis réveillé toujours pas bien, comateux, encore avec des médocs. De plus, j'étais encore sous perfusion. Je tenais des propos incohérents. Pour Giras, j'étais tiré d'affaire, mais très loin d'être stabilisé. J'aurais dû aller en hôpital psychiatrique. En début d'après-midi, les surveillants de la maison d'arrêt sont venus me chercher. J'ai été entravé. J'étais bancal et ça les amusait. J'aurais dû réintégrer ma cellule comme c'est la procédure. Ça n'a pas été le cas. La procédure classique en cas de velléité suicidaire, c'est CEPROU, donc cellule de protection d'urgence, dénoncée par de nombreuses personnes pour ses effets délétères, puis GIRAS, puis HP, puis retour maison d'arrêt en cellule. Eux ont fait l'inverse, avec un excès de zèle, malgré les recommandations du médecin-chef, ma psy, concernant les effets délétères de la CEPROU. J'ai subi de mauvais traitements en octobre 2019. J'ai dû boire l'eau des chiottes parce qu'on m'avait coupé l'eau. Torture blanche, plus traitement inhumain et dégradant. Donc, de retour en maison d'arrêt, j'aurais dû réintégrer ma cellule. Eh bien non. Par ruse, on me dit d'aller chercher mon traitement. Je monte et là, on me dirige vers la CEPROU, ce qui n'est pas la procédure normale, car ils ont essayé de le dire. Il n'y avait aucune justification. J'étais pas suicidaire. Le lieu est hyper anxiogène et favorise fortement le passage à l'acte. Je n'ai pas voulu y rentrer. Ils voyaient que j'étais pas bien. J'avais besoin de soins d'urgence. Personne ne m'a écouté. Je ne voulais pas me déshabiller. J'ai tenté de dialoguer, peine perdue. Ils sont jetés sur moi à 3, puis à 5. J'étais projeté au sol, écrasé par leur poids. J'ai hurlé si fort qu'on m'a entendu de loin, tellement il me faisait mal. La force employée était disproportionnée et injustifiée. J'étais au sol et en quelques minutes, j'entends une voix. « Ce con, il m'a fait mal !» Le surveillant s'est fait mal en me mettant les menottes. La gradée, condescendante, a rétorqué. « Ah, il a mordu un surveillant !» Alors que rien n'était fait en face de moi et puis... « Allez hop, au QD !» C'est un prétexte. Je me rappelle de tout, sauf d'avoir fait mal ou mordu. Je suis un détenu exemplaire, pas violent d'ordinaire. Je participe à tout, je suis instruit et j'essaie de défendre mes droits car ils sont peu, voire pas du tout respectés. J'ai mis 3 ans pour obtenir le règlement intérieur. Et ça, la pénitentiaire n'aime pas. Vers 15h30, après avoir été maîtrisé, je suis dans la coursive nord. Au moment de la descente de l'escalier, un des surveillants m'étrangle. Et là, je dis « J'arrive plus à respirer !» Au bout de l'escalier, la gradée lui dit d'arrêter. J'étais blanc et je tanguais. J'étais même HS. Au QD, il me jette au sol avec une violence inouïe. Puis il m'arrache mes vêtements violemment. Je suis à poil, complètement passif. Il me met à genoux, la tête face au mur. Toujours à poil, je reçois un coup dans le dos. Je m'éclate contre le mur et la grille d'aération. Un autre surveillant lui dit d'arrêter. Il arrête. Il me balance un pyjama en papier et me dit « Si tu le déchires, je te fous un coup de poing. » Ce type de pyjama se déchire en moins de 5 minutes si vous avez le malheur de bouger. Je suis resté plus de 2 heures sans couverture et sans chauffage. J'étais à même le sol sur un matelas en mousse gonflé d'humidité. J'ai demandé mon traitement, ils me l'ont refusé. En sortant, ils m'ont menacé. Si tu portes plainte, tu auras des représailles. C'est inadmissible, inhumain et dégradant. Abus de pouvoir. Traité comme un vulgaire chien et dans le dénuement le plus total. De plus, mon état mental n'était pas compatible avec maintien au QD. Sanction, 20 jours, dont 5 avec sursis. Pas de chauffage pendant 13 jours. Juste 2 jours de chauffage, le 30 novembre et le 1er décembre. Pas d'eau au robinet, juste les chiottes qui fonctionnent. J'ai dû la boire pendant 15 jours. Humidité, plus fuite de la fenêtre lorsqu'il pleut, matelas imbibé, mur à la peinture écaillée, odeur nauséabonde. Samedi 21 novembre. Aucun accès aux soins. Je n'ai pas eu mes 2 traitements, aucune possibilité de me faire constater mes blessures. Dimanche 22 novembre. Juste une couverture et toujours le pyjama en papier. Au matin, provocation d'un surveillant. T'es calmé ? Pas d'eau chaude pour un café et pas de traitement. Lundi 23 novembre. Plus de 48 heures sans traitement. J'étais en manque, sale et privé de douche. Douche au QD, lundi, mercredi et vendredi réglementaire. Pas dormi depuis plus de 48 heures. Une insomnie due à la privation de traitement. Je me suis tordu de douleur. Je voulais en finir. Mes angoisses n'ont cessé de s'amplifier. Vers 10h20, je passe au prétoire en état de manque, sans avocat. Ils ont bien vu que je n'allais pas bien du tout. Rien. Vers midi, un médecin arrive, mais n'ose pas rentrer. J'ai juste vu une flopée de chefs et surveillants. Aucune auscultation. J'ai pourtant demandé à avoir un docteur. Mercredi 25 novembre. Enfin une douche. Un souci, l'eau chaude sort directement, donc impossible de la prendre. 5 jours crades. J'ai signalé au surveillant qui a fait le nécessaire. Les chefs ont été corrects avec moi et certains surveillants aussi. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. N'est qu'une poignée qui agissent mal. Ils ont essayé de me briser pendant 15 jours. Jeudi 26 novembre. Enfin, un surveillant humain. Il m'a dit qu'il était présent à l'hôpital et à la CEPRO. Que ça se voyait que tu étais gazé. Et lui n'a rien vu de particulier lorsque j'ai été maîtrisé. Il n'est pas OK avec ses collègues. Vendredi 27 novembre, une vraie douche. Je suis resté 7 jours consécutifs sans douche, entorse à la loi et au règlement. Lundi 30 novembre, parloir. Encore fouille à nu systématique. Ça fait plus de 4 mois que je suis en permanence mis à poil pour les parloirs sans aucun justificatif particulier. Encore des abus. Samedi 5 décembre, je regagne ma cellule. Mardi 8 décembre, le matin, on me refuse le linge en prétextant un changement dans le règlement, ce qui est bien évidemment faux. C'est le surveillant qui m'a donné un coup dans le dos, je ne m'étonne pas. Et j'ai finalement pu récupérer mon linge avec un bon surveillant. Des petits coups de vis gratuits. Jeudi 10 décembre, vers 17h, encore une brimade et un total manque de respect de ce surveillant. Il est grand, gros, cheveux grisonnants, moustache. Alors le croqueur, c'est ton surnom ? Jeudi 12 décembre, j'avais le culte. Comme par hasard, ils me disent, la même équipe, que je ne suis pas sur la liste. Faux. Violation d'un des articles de la loi du 24 novembre 2009 concernant la santé, la culture, les fouilles, journaux, courriers, etc. Il y a une minorité dans cette maison d'arrêt qui vont à la dérive. Ratonnade, brutalité, accès aux soins inégal, excès de violence verbale, menaces, intimidation, corruption, détournement, racket alimentaire, prix gonflé sur les cantines. Le prix affiché n'est pas le prix payé. En mai 2020, un ostréiculteur a fait don d'huîtres d'Arcachon. Vu dans la Charente Libre, menu 3 étoiles à la maison d'arrêt d'Angoulême. Aucun détenu n'en a mangé. Elles ont été détournées par une partie du personnel. Lors d'un rendez-vous à Luxa, j'ai vu 4 surveillants les dissimuler dans des sacs poubelles. J'espère que vous allez prendre connaissance de tout et m'aider à faire valoir mes droits pour arrêter de subir. Je suis traumatisé, ma santé décline et je dérive. Je me sens mourir ici. Et je n'ai pas la totalité des soins. On est déconsidéré, traité comme des moins que rien. Ils violent même le code de déontologie concernant la confidentialité, article 10, titre 2, et nous mettent en péril. J'ai beau écrire à la chef de détention, au chef d'établissement, aucune réponse. À force, c'est très dur de prendre sur soi. J'attends toujours mon transfert. J'irai jusqu'au bout avec mon avocate. J'ai trop de problèmes de santé et de morale. Cette maison d'arrêt est un mouroir.
Voilà, donc c'était une lettre de Y à la maison d'arrêt d'Angoulême. Alors attends, hop, petit problème de micro. Merci. Donc voilà, il raconte, c'est terrible ce qu'il a subi. Il le raconte très bien et c'est super important qu'il le raconte et qu'il le fasse sortir en long, en large, en travers pour bien qu'on comprenne et faire comprendre ce que c'est et ce qui se passe et comment on démolit quelqu'un en prison. Et que c'est pas rare et que des histoires comme ça, on en raconte régulièrement et que des fois, elles finissent d'une manière dramatique. C'est ce qui se passe dans les prisons, en fait. C'est exactement ça qui se passe. Là, pourquoi ? Parce que le mec, il n'obtempère pas hyper facilement, parce qu'il réclame un peu ses médicaments auxquels il a le droit et dont il a besoin, et ça finit comme ça. Et on voit à quel point ils peuvent aller, ils parlent de petits coups de vis gratuits, il y a les grosses violences et il y a les grosses sanctions, le mitard c'est une sanction de ouf, et les petits coups de vis gratuits, on te file pas ton linge, on t'emmène pas au culte, machin, tout ça. C'est exactement ça, en fait.
En fait, Y, il dit qu'il n'est pas suicidaire. Il le dit. Il dit, je suis pas bien, je suis pas stable, ça va pas, je flippe, j'ai besoin de mes médocs. La réponse qui est donnée à ça, c'est, ah très bien, tu nous fais chier parce que tu veux tes médocs, on va te traiter comme on traite dans ces cas-là. Et qu'est-ce que ça veut dire traiter dans ces cas-là ? C'est traiter comme un psychiatrisé qui est un moins que rien du moins que rien de la prison. Et un moins que rien du moins que rien de la prison, c'est quelqu'un qui, du coup, on va le faire rentrer dans la procédure suicidaire. Dans la procédure à des velléités suicidaires. Y dit « je ne les ai pas ». Il dit « je ne les ai pas », il dit « je ne vais pas bien ». Mais il dit pour autant « je ne les ai pas ». Et il dit « je ne vais pas bien parce que je suis en prison, globalement ». Et il dit « mais je n'ai pas de velléité suicidaire, parce que c'est ça la formule ». Et on le met dans une cellule. On le met dans une cellule avec un pyjama en papier qu'on lui jette, qui est la procédure, qui est la grande invention, hein, quand même, qui est arrivée dans les 10 dernières années. Hein,
pour humilier les mecs qui vont pas bien ou qui ont trop parlé, quoi, et les meufs.
On te donne un pyjama en papier, c'est ça. Tu vas pas bien, et on te dit...
Kit anti-suicide.
Et on te met ce kit anti-suicide, qui est donc un ensemble de pyjamas en papier, qui ressemble vraiment à ce qui se passe en hôpital psychiatrique. Hein, c'est-à-dire, on finit par enlever les oripeaux qui restaient de l'humanité. Et donc... on finit par enlever tout ce qui reste de ton identité, de tes fringues, de ceci, cela. Et ça, on l'a pris. Enfin, c'est-à-dire que la prison et l'administration pénitentiaire, sous couvert de prendre en charge le traitement, la gestion de gens qui sont psychiatrisés et qui se retrouvent enfermés, oui, a développé...
Pour leur sécurité.
Pour leur sécurité. Ouais. Voilà, bien sûr. Mmh. Mais sous couvert de prendre en charge la maladie ou le mal-être psychique auquel ils font face, puisqu'en fait, la prison est évidemment un lieu qui... contribue et nourrit encore plus ce truc-là si t'allais pas très bien à la base. Et ils ont mis en place ces kits anti-suicide. Ces kits anti-suicide qui sont directement inspirés du traitement de base de la contention la plus violente que tu peux avoir en HP, à savoir le fait de t'enlever tes fringues et te foutre dans une cellule capitonnée en disant « on fait juste en sorte qu'ils puissent pas se foutre en l'air jusqu'au moment où la crise est passée ». Mais là, on peut faire de longues émissions et de longues discussions sur... ce que c'est que le traitement de la détresse psychique et de l'enfermement des gens qui vont pas bien. Mais là, c'est même pas ça, dans la mesure où Y dit « je ne vais pas me foutre en l'air, donc en fait, foutez-moi la paix ». Mais là, le truc se retourne, va tellement loin qu'on lui dit « si tu te débats contre le fait qu'on a décidé que tu avais envie de te tuer, on considère que tu nous emmerdes ». Du coup... on te tape et on te donne une bonne raison d'avoir envie de mourir. C'est ça le mécanisme. Et si jamais Y faisait partie de ces gens qui, un jour, s'accrochent dans sa cellule, l'administration pénitentiaire sortirait son rapport et dirait bah, « c'est un suicide. C'est pas nous qui avons tué Y. Y, il s'est tué. Il s'est suicidé. D'ailleurs, il avait des velléités suicidaires. Pour preuve, on l'a placé dans une cellule et on l'a mis... en traitement de velléité suicidaire. C'est-à-dire que, en fait, l'administration décide, en fonction de la case dans laquelle elle t'a mis, et ça s'applique à tout le reste de la gestion de la détention, mais là, ça rajoute cette dimension de soins, de pseudo-soins, derrière le pseudo-soin, on te met dans cette case-là, et on t'enferme dans ce truc de suicidaire, ce qui fait que, si demain, il lui arrive quoi que ce soit, et qui se fait même pas un suicide. C'est-à-dire que si demain il se fait tabasser par un maton un peu plus violent, il n'y aura aucun mal à dire pour l'administration, mais de toute façon il avait des problèmes psy, il avait envie de se foutre en l'air, la preuve, on l'a mis en cellule, c'est bien la preuve que ça n'allait pas.
Que ça n'allait pas et qu'on a tout fait pour le protéger.
Oui.
Ouais, c'est pour ça vraiment que c'est super important qu'il ait écrit. Là, apparemment, il a quand même un peu repris la pêche, heureusement, parce que c'est vrai que c'était super inquiétant quand même les nouvelles qu'on avait eues. Il a repris la pêche, il a écrit, il a raconté tout ça dans les détails et c'est vraiment super important parce que il n'y a que les prisonniers et les prisonnières qui peuvent raconter et faire comprendre la violence qu'il y a derrière ces murs, la violence qui peut emmener des gens au mitard, la violence qu'ils peuvent subir dans les mitards après, etc. En plus, l'engrenage qu'il y a derrière, c'est super important qu'il l'ait fait. Puis, bon, apparemment, il lâche pas l'affaire. On peut quand même lui souhaiter qu'il ait son transfert. Et on enchaîne sur les mitards plus globalement.
Bah, en fait, juste deux secondes, il dit qu'il est quand même passé au prétoire pour cette histoire-là. C'est-à-dire, il faut rappeler quand même ce que c'est que le prétoire. Le prétoire, c'est un jugement interne à la détention qui est géré par la détention sur la base de rapport de la détention. C'est-à-dire que l'administration est juge et partie et décide à ce moment-là qu'il pose problème, etc. Donc c'est ça ce qui conduit à tout type de mitard. Mais là, en particulier, on ne comprend même pas dans son récit ce qui conduit à ça. À part ce dit témoignage d'un surveillant sur le fait qu'il est mordu au moment où on le truc. Mais de deux choses l'une, soit il est suicidaire, il va pas bien dans sa tête et on le traite comme un suicidaire qui va pas bien dans sa tête, soit on le traite comme un prisonnier récalcitrant et à ce moment-là, on le fout au mitard. Là, ils font les deux. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire, c'est la double peine de l'administration pénitentiaire. Et en fait, le fait de pas aller bien fait qu'on te traite mal, fait qu'on te fout au mitard et fait qu'ensuite, on dira que tu avais des bonnes raisons d'être au mitard. Une espèce de truc qui tient sur lui-même. Je reviens quand tu dis sur les petits coups de vis au quotidien. Il se fait 16 jours sans douche. 16 jours en pyjama, en papier, dans une cellule, et il se retrouve à avoir un par-lui, on lui refait une fouille à nu. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir de dangereux ? Enfin, quel est le sens de cette fouille à nu ? Cette fouille à nu, elle est évidemment décidée pour lui mettre un petit coup supplémentaire sur la gueule et lui dire « Est-ce qu'un jour, tu vas finir par prendre suffisamment de cachet, soit pour pas te rater et te buter tranquillement et qu'on n'ait plus à s'emmerder avec toi, soit pour être complètement zombifié et plus emmerder personne dans la détention et plus lire le règlement que tu as demandé pendant 3 ans, que tu as fini par obtenir et avec lequel tu nous emmerdes. » C'est ça ce que lui dit l'administration pénitentiaire.
Ouais, et juste non, parce qu'il dit plusieurs fois c'est que quelques surveillants en fait qui me foutent la misère. Je voulais juste parce qu'on en a parlé, enfin dans le journal on a écrit aussi là-dessus. Il dit à un moment il y a un surveillant qui vient le voir en lui disant ouais, je suis pas d'accord avec ce qu'ont fait mes collègues. C'est un truc quand même assez classique du bon flic mauvais flic en fait. Enfin, on sait très bien malgré tout que la direction, elle tolère, elle sait très bien ce que fait ces matons, ce que font les matons là qui tabassent, elle le sait. Et alors oui, la direction, elle a beau jeu d'avoir l'air gentille ou qui a aussi là ses bons matons et ses bonnes équipes. Mais voilà, en fait, ces gens-là, ils travaillent ensemble, ils sont ensemble, ils savent très bien qu'il y en a qui sont violents et en fait, ils le disent à toi, enfin ils le disent à un prisonnier, genre ouais, je suis pas d'accord, mais ils vont pas le dire dehors. Et d'ailleurs, enfin, on sait très bien que ça ne sort pas en fait au-delà des murs, quoi. Et là-dessus, il y a un truc. Enfin, même si on comprend très bien ce qu'il dit, qu'il y a des matons qui, effectivement, bah, heureusement, de temps en temps, tu tombes sur un mec qui est humain, enfin, tu es juste humain, mais en fait, ces gens-là, ils traversaient les collègues des autres, et ce qu'eux, ils osent dire, enfin, ce qu'il, de temps en temps, il dit aux prisonniers, il le dira jamais en dehors, quoi. Et l'autre truc, c'est, parce que ça m'a fait penser un peu à ce que vous avez dit avant, je voulais lire un tout petit une phrase d'une lettre qu'il a écrite, parce que ça me faisait penser à ça, sur le truc que tu disais, où en fait, t'es... Enfin, tu finis par te faire du mal à toi-même, mais parce que c'est la prison qui le fait, enfin, il le dit bien. Il dit « Auparavant, je prenais des lames de rasoir et scarification. Dehors, jamais je n'avais fait ce truc. En faisant ça, je retourne cette violence engendrée par cette détention qui me tue. La prison assassine, et plus tard, on devient une statistique, un corps des chiffres, matricules, cellules, incidents, hospitalisations, suicides, morts suspectes et bien d'autres. »
C'est clair, un bon entendeur, là, pour ceux qui écoutent l'émission, hein, qu'ils soient... qu'ils aient un képi sur la tête ou qu'ils soient derrière des barreaux, c'est très clair. Cet homme n'avait pas l'intention de se suicider.
Mais c'est, l'extrait que tu viens de lire, Arthur, il le dit encore une fois mieux que tout ce qu'on a pu dire depuis tout à l'heure. Mais ce que dit, je rebondis sur l'histoire du maton sympathique, du maton moins désagréable que les autres, on va dire. Effectivement, ce surveillant, il le dit à quelqu'un à l'intérieur. l'administration pénitentiaire se sert de ce type, évidemment. Mais pour autant, tant mieux, évidemment. Évidemment, tant mieux qu'un surveillant et que Y arrive à ce moment-là à obtenir son linge quand il finit par le demander, etc. Bon, ça, c'est très important, heureusement. Mais ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus important et de fondamental qui fait, par exemple, et je reviens et je refais le lien avec notre censure du dernier numéro du journal, où ce qui ne plaît pas à l'administration pénitentiaire, c'est qu'il y a écrit à cet endroit-là, dans ces pages-là, on ne sait pas exactement, hein, toujours pas quelles pages sont, quelles phrases sont poursuivies exactement, mais ce qui ne plaît pas, c'est qu'on dise que précisément une phrase qui dit sans doute que des surveillants tuent et que d'autres sont complices. Et en fait, dire ça, et donc, alors d'autres surveillants, et puis évidemment, les directions et l'administration centrale, voilà. Être complice, ça ne veut pas dire « je sais exactement ce qui s'est passé à cet endroit-là et je les tue ». Ça, c'est la complicité, je dirais, bas de gamme sur laquelle enquête la police, etc. Et ce n'est pas notre travail, on s'en fout de savoir qui est complice exactement de quoi. On dit qu'il y a un système structurel, une machine à fabriquer de la petite misère quotidienne comme ça et des grands drames et de la torture. Et c'est ça ce qui structurellement ne veut pas, évidemment, que l'administration pénitentiaire ne veut pas qu'on dise ça. On peut dire, à tel endroit, il y a de la moisissure sur les murs. Ça finit par être quelque chose qu'on peut entendre, parce que ça contribue aussi à faire peur avec la prison et dire que c'est dégueulasse et que finalement, on n'a pas envie d'y aller. Et la prison sert, évidemment, d'épée de Damoclès sur la tête de tout le monde pour que tout le monde marche droit. Mais on ne peut pas dire que... Et on peut dire éventuellement... Si vous le prouvez, tel maton a été violent à tel et tel moment. Mais là, dans ce que nous dit Y, il ne peut pas nous dire. Il fait une description vague d'un surveillant en particulier qui a été horrible avec lui. Mais il ne peut pas donner la preuve de qui est ce type. Il ne va pas donner l'identité de ce type. Il ne peut pas dire quels étaient tous les types qui étaient avec ce type-là le jour où il est accusé d'avoir mordu. Il ne peut pas dire qui a été sympathique avec lui. Il ne peut pas, simplement parce qu'il est prisonnier, parce qu'il est enfermé à l'intérieur. Et là, on touche du doigt cette réalité qui est en ce moment dénoncée, portée par des familles, que ce soit par la famille Didier, que ce soit par la famille de Timoni, que ce soit par toutes les familles qui se bagarrent en ce moment pour faire éclater la vérité, simplement la vérité sur la mort de leurs proches à l'intérieur des murs, et notamment au Mitard. Ils se battent pour faire éclater une parole de vérité là où il ne peut pas y avoir de témoignage. Voilà, il ne peut pas y avoir de témoignage. Enfin, ils sont très difficiles à faire sortir. Et d'où l'importance de l'appel porté.
Bah non, moi j'ai l'impression, j'ai pas trop suivi, mais il me semble qu'il y a exactement ça qui s'est passé avec Jimoni en fait. Il me semble qu'il y a un maton qui à un moment, enfin il y a quand même quelqu'un qui a parlé, et que du coup en fait t'as tout le, bah, comme tu dis, tout le système, tous les syndicats et tout qui ont réagi en mode mais qui est-ce, c'est qui cette poucave dans les rangs, et on voyait bien que du coup effectivement là ça les mettait bien dans la merde, parce que d'habitude, eh ben oui, on peut dire à un prisonnier ouais je suis pas d'accord avec ce qu'ils t'ont fait, mais par contre tu vas pas dire ça dehors quoi. Mais...
Et il y a un autre exemple qui sont assez rares, c'est dans le... Donc il y a un documentaire qui s'appelle « Maton violent » de Laurence Deleur, qui est une journaliste qui a enquêté sur les violences de surveillants, et notamment au Mitard. Et bah, il y a un mec qui était maton et qui a dénoncé des collègues violents. Et il raconte super bien. Donc ce documentaire, vous le trouvez sur l'internet. Bonne chance, sinon on donnera les références à l'occasion. Mais il raconte super bien, en fait, comment c'est pas que... les quelques collègues violents qui lui ont mis la misère après, c'est toute l'institution qui lui a mis la misère après. Ça ne se fait pas, c'est vraiment... ça ne se fait pas. Les prisonniers, ils n'ont pas le droit de raconter ce qui se passe. Et les matons, même ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne vont jamais aller le raconter dehors parce que toute l'institution les en empêche. Et ça s'est donc vu, comme tu disais, là, après la mort de Jimoni, pareil, c'est...
Moi, j'ai envie de rajouter le fait que là-dessus, évidemment, les syndicats de maton sont très importants, puisqu'il faut tenir les rangs. Et ils prennent de plus en plus de place. Je veux dire, depuis que l'envolée existe, depuis 20 ans, on a eu de cesse de voir les syndicats de maton prendre de plus en plus de place. Et d'ailleurs, cette décision du ministère de la Justice de censurer le journal L'Envolée fait suite à un communiqué de la CGT pénitentiaire qui demande expressément à ce que L'Envolée soit censuré. Et l'administration suit. L'administration suit. Pourquoi elle suit ? Parce que là, elle ne peut pas se permettre, dans cette période où on sait que c'est particulièrement tendu. On le dit en permanence que c'est tendu en prison, mais là, c'est particulièrement tendu. Il y a des cas de Covid dans tous les sens. On en a déjà parlé à cette antenne. Les prisons sont suroccupées, les matons sont à fleur de peau, hyper violent, etc. C'est la période aussi qui veut ça. Et là, tout le monde et les syndicats sont là. Ils sont là aussi pour suivre et pour que tout le monde soit là-dedans, là. C'est cette ambiance, c'est un peu ça, cette ambiance fasciste aussi. C'est aussi ça. Hein. On se serre les coudes. Cette lettre, ce qu'elle décrit comme pratique, qui sont des pratiques horriblement banales, il faut qu'il y ait un corps de surveillants qui se serre les coudes à cet endroit-là pour tenir.
Tu t'es sali des mains, on a tous les mains sales. C'est ça que ça dit, tu vois.
Et moi, je voulais revenir sur un tout petit parallèle que tu as fait, Pierrot, quand tu décris le prétoire. Hein, le prétoire où c'est le maton qui est jugé parti. Et juste là, voilà, ça fait quelques temps, quelques moments sociaux, là, un peu plus long que d'habitude, se saisissent de la question des violences policières. Et quand on voit les violences policières, c'est un flic qui met un PV, qui généralement c'est lui qui est violent, qui met le PV, qui est validé par le juge, etc. Et c'est le même fonctionnement qui s'auto-alimente. Et là, au niveau social, il y a eu quelques mouvements où les gens ont réalisé cette violence qu'on décrivait depuis longtemps. Et il serait quand même temps de réaliser aussi que, en fait, il y a une violence carcérale, il y a une violence pénale et il y a une élimination. Donc si on pouvait se saisir de toutes ces violences d'État et pas les segmenter, mais de voir en face qu'il y a une machine qui est violente, qui est brutale dans la rue et qui est brutale dans les oubliettes. Et ça serait vraiment bien de pouvoir faire ce parallèle, de prendre conscience de ce parallèle et de cette même réalité, parce que c'est une réalité systémique. Et que, bon, il y a quelques personnes qui ont, avec les mouvements sociaux, qui ont connu la prison et qui se sont saisies de cette question-là, mais la faire apparaître au grand jour comme elle est et comme elle a apparu dans la rue, pour les violences policières, ça serait un beau moment.
Ouais, et alors moi je rebondis sur ce que vous avez dit tous les trois. Donc en fait, quand Y parle du fait qu'il a bu l'eau des toilettes au mitard, ça rappelle qu'il y a d'autres histoires comme ça, et ça rappelle notamment le fait que Idir, qui est mort au mitard de Corba le 9 septembre 2020, avait dit « Je suis obligé de boire l'eau des toilettes. Ils nous obligent à boire l'eau des toilettes. » Voilà, ça fait un petit lien. C'est pour dire vraiment, tiens, comme par hasard, c'est pas des pratiques isolées, c'est pas des affabulations. Ils peuvent pas l'avoir inventé, les gens qui racontent ça. Et donc, ça me fait rebondir sur le fait que, suite à la mort de Idir au mitard de Corba, ses proches, ils ont monté une asso qui s'appelle « Idir, Espoir et Solidarité ». Bon, ils ont porté plainte, ils combattent pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, pour le faire savoir et pour protester. Et aussi, directement, ils ont dit, mais en fait, il faut faire fermer les mitards. C'est une catastrophe ce qui s'y passe, il s'y passe des drames. Personne ne voit ce qui se passe et il faut qu'on sache ce qui se passe. Et donc, ils ont déjà eu la parole, ils et elles ont déjà eu la parole dans l'émission. Et bah, je voulais juste en profiter pour rappeler que dans ce cadre-là, ils ont fait circuler un appel à témoignages, un appel à récits. Ils disent vraiment « Envoyez-nous tous les récits que vous avez sur ce qui se passe au mitard ». Ils les recueillent. Donc là, je n'ai plus les contacts sous la main. Ça peut être par Facebook.
Ouais. Ou sur les réseaux sociaux.
Ouais, en tout Facebook, cas par Facebook.
Sur Facebook, Association Idir Espoir et Solidarité, ouais. Ça marche.
Tout à fait.
Et une pétition qu'ils ont mis en ligne sur Mes Opinions.
Ouais, et il y a c'est mesopinions.com, ouais, et il y a une pétition pour radier les quartiers disciplinaires qu'ils appellent eux-mêmes directement des couloirs de la mort. Voilà, donc c'est un boulot très important qu'ils ont entamé parce que c'est vraiment une manière forte de parler tout ça.
Comme dit la Hesse, c'est bon, j'en ai marre de cette prison, demain je me casse. Ah merde, je peux pas, c'est pas comme ça que ça marche.
Le carnage que ça engendre, des licenciements, c'est quoi à côté d'une chemise arrachée, d'un mec qui s'est fait simplement un peu molester et encore molester
Quelqu'un était dans le coma, vous le savez?
Ouais, et alors? Il y a cinq contis qui se sont suicidés, il y en a un qui s'est jeté devant les rails de Continental. Quoi ça? C'est rien?
Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Une Rolex, enfin...
Get the fuck out of here, oh, what you gonna do? What the fuck you gonna do? Huh? What you doing? You gonna shoot me in front of everybody? Huh?
Yeah. Est-ce mourir ou m'adapter qui me fait le plus peur? Aurais-je les mêmes potes si j'avais une sœur? D'où me vient le doute? Est-ce lié à la pudeur? Est-ce qu'on se trouve que dans le trou doit-on se fier à nos vues d'œil? Sens-tu le pouvoir quand ils ont une pièce ton puzzle? Crois-tu planquer tes larmes sous la sueur quand tu pleures seul?
Les questions que je pose sont très simples. Où est la thune? Pourquoi ta pute me regarde comme si j'étais Trey Songz? Pareil qu'on est Mekra, t'es venu avec qui? C'est qui lui? Je le connais pas. T'es dans le poteau, Pascal Olmeta.
Des plus vicieux, vertueux, à quoi te servent cela? Le pire c'est être un fils de pute ou un futur père de là.
Je dis laisse, t'es des connards, c'est des mots que je mâche en chanson. J'suis comme un môme frérot, enfile un gilet quand je me questionne, rien m'impressionne. Comme le sourire d'une femme, je me passionne pour ces petits riens. Un grain de sable, la rue, son putain d'engrenage.
Pourquoi je partage aussi peu leur joie? Aurais-je déjà pas ce lâche de wesh? Ouais, peut-être non.
Pour les anciens et les plus jeunes, bientôt, je ne ris plus jaune.
Des cordes à mon arc, j'en ai plusieurs.
Sinon les gars, je vais dire, c'est un véritable plaisir. J'espère qu'on pourra jouer ces merdes sur scène. À Paris, à Genève ou à Londres, on sera pas amené à se déchirer pour des chattes, pour des chèques.
Pour des chèques, ouais. Quand je vais à la crèche en capuche, récupérer ma fille. Est-ce que je suis tricard? Est-ce que celui qui boit Ricard pense-tu bien d'un muslim à grande beubar? Un cliché ou un couplet de patade? Un expect cliché sous bois,
gars ne rit pas.
Quelles sont les armes les plus aptes à niquer le roi? Y a-t-il de quoi en noircir des pages et des pages et des pages?
Oh, on s'entend plus rapper, sont tous en train de miauler. Des refrains qui durent trois couplets. Trop longtemps, dans le sens inverse, je fais mes trois couplets sans refrain. Pente quand les lois j'enfreins. Mais suis-je responsable du cancer facial de juge au frein, hein?
Simple question.
Furio à la prod, mec.
Simple petite question.
Foudadje, motherfuck.
T'es, quand est mon animal.
Putain, trois points.
C'est un.
Simple question.
Qu'est-ce t'en dis?
Moi aussi je me pose ces questions, quand d'autres n'ont pas le temps. Pour autant j'ai mes réponses quand le quotidien m'une tremble. Je me pose ces questions, quand d'autres n'ont pas le temps. Pour autant j'ai mes réponses quand le quotidien m'une tremble. Je me pose ces questions, quand d'autres n'ont pas le temps. Pour autant j'ai mes réponses quand le quotidien m'une tremble. Je me pose ces questions, quand d'autres n'ont pas le temps. Pour autant j'ai mes réponses quand le quotidien m'une tremble.
Vous êtes bien à l'écoute de FPP 106.3, émission L'Envolée, comme chaque vendredi soir.
Et on vient de s'écouter le morceau Simple Question, donc de Caïman l'Animal avec Motherfuck et Situkudaj, de l'album 3 points qui est sorti il y a un peu moins d'un an. Donc un gros big up au poteau parce que ça fait, c'est quand même un peu tous la famille. Et du coup, on en profitera pour faire une grosse dédicace au Black Mirror, à l'émission Frontline et à B-Boy Conscient.
Yeah, c'est du lourd. Sinon, la Hesse, comme dit la Hesse dans Bref de prison qui vient de sortir, j'ai des envies de meurtre en ce moment. J'ai envie de tuer le temps. Steph, t'as un petit coup de gueule à passer en fait, hein, une petite chronique coup de gueule.
Ouais, ça fait un petit moment que j'étais pas venu, qu'on s'était pas retrouvé, donc j'avais plutôt imaginé un truc un peu convivial, et puis j'avais oublié la violence. Dont on parle, qu'on dénonce, donc c'est plutôt jour de colère. Mais voilà, pour moi, en fait, tout, il y a une suite logique dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit. Et voilà, c'est ce que je vais expliquer. Et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la plainte de la paix, qui, comme vous l'avez rappelé, est dit à cette antenne il y a quelques semaines, trouve son origine dans un tract syndical de la CGT pénitentiaire. Et là, en fait, voilà, c'est peut-être des portes ouvertes, mais sur une période un peu compliquée qu'on vit, c'est important des fois d'énoncer des évidences. à toutes ces structures syndicales représentatives X ou Y, là, dire que non, tous les métiers ne se ressemblent pas et il y a des gens qu'on ne peut pas défendre. Voilà. En fait, les matons, les procs, les flics, tout ce que j'appelle les forces de l'ordre, en fait, qui sont là pour maintenir un ordre social et économique, tout ce qui font partie des forces de répression, on ne peut pas les défendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'ils sont là pour défendre un ordre. Et ce sont des forces qui seront d'autant plus brutales que l'ordre à défendre est inégal ou injuste. Et on est quand même en plein cette période. Et on le vit, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, par hasard, on le vit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. À l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que voilà, ces forces sont pour maintenir un statu quo. Et pourquoi on ne peut pas les défendre au nom d'une sorte d'idéal de justice ou d'équité sociale qui est le credo de ces grandes structures syndicales, on ne peut pas les défendre et ben, tout simplement parce qu'on n'est pas dans le même camp. Et ça, on a le droit de le dire, comme on peut dire que Le Pen est fasciste, on a le droit de le dire qu'on n'est pas dans le même camp. C'est une expression teutonique pour définir la lutte des classes. Et une expression qui est clairement assumée, voilà, qui est clairement assumée, voilà, c'est clairement dit. Il faut que nous aussi, on le sache, qu'on n'en prenne conscience. C'est à l'état actuel et ça va être de pire en pire, où on pourra de moins en moins prendre la défense de ces gens-là qui ont choisi leur camp, parce que ça sera des forces qui vont être des rouages essentiels de cette loi sécurité globale qui a quand même pour objectif de créer un continuum de sécurité entre le vigile du supermarché, le flic, le militaire et peut-être même le voisin vigilant à qui on a dédié des compétences de police. Et auquel sera ajouté tous les outils technologiques de vidéosurveillance. L'esprit de cette loi, c'est de rendre légalement possible ce qui est techniquement faisable. Voilà. Donc c'est la citoyenneté, c'est le concept du citoyen, qui a un peu évolué, mais voilà, c'est tous suspects, tous coupables. Et cette, donc c'est une sorte de panoptique sociale, en fait, on est tous sous surveillance.
T'as passé panoptique.
J'ai passé panoptique et j'ai placé un truc encore un peu plus fort, c'est que là, je vais faire une petite dédicace au gros. Le gros, on l'appelle, c'est pour nous, c'est Olive. Hein. C'est un truc qui a été dit et redit à cette antenne pendant des années et des années. Quand on accepte la logique d'une peine de 15, 20, 25, 30 piges, quand on accepte une peine qui est maintenant assumée dans les tribunaux comme une peine d'élimination sociale, d'élimination physique, ben en fait, on porte déjà la tôle dans sa tronche. On porte déjà la tôle comme une possibilité de réponse à un problème. Et donc, on porte déjà l'élimination d'une personne comme une possibilité de réponse. Et là, je fais un petit truc parce que j'ai un peu bu, donc je suis à 2 grammes, tout s'articule. Et je fais un parallèle en disant que quand on est citoyen, juré potentiel, mais citoyen honnête, et qu'on peut effectivement penser qu'il est légitime de condamner quelqu'un à 20 ans à une élimination sociale, on peut accepter aussi, pour soi peut-être, de dire qu'il est légitime que je rentre chez moi à 18 heures et que je me coupe de tout le monde. Et surtout que je me coupe de tout le monde, parce que ça fait quand même 12 ou 13 lois sécuritaires qu'on accumule, ça fait 5 ans d'état d'urgence qu'on accumule et qu'on fait rentrer dans le droit commun, et on crée une véritable société de la peur. Et on en est là. Voilà, la peur en France, ou en Occident, on va dire, elle a toujours existé. Ça a été la peur de l'autre en général. Avec le temps et dans la logique d'État, qu'on s'entende bien, la peur du musulman, parce que derrière tout musulman peut se cacher un intégriste potentiel. La France est quand même la fille aînée de l'Église catholique. Est-ce qu'on a vu l'État demander aux catholiques de dédier leur poteau qui avait cramé un cinéma où on passait la Passion du Christ, ou est-ce qu'on l'a vu demander se dédier des groupuscules fachos qui allaient dans des cliniques qui pratiquaient l'avortement? Non. Mais ça, on le demande maintenant aux parties prenantes d'une autre religion. Je ne suis pas pour le monothéisme, je n'ai pas à en défendre l'un ou l'autre. Mais il y a quand même deux jugements, enfin, il y a quand même deux pratiques qui sont complètement inégalitaires. Donc là, oui,
Là, tu relis même à la loi sur le séparatisme.
Tout est lié, parce qu'à un moment, tout est clair dans ma tête. Tu vois, au quatrième vers, tout est clair et on a tout est là.
Ça, c'est clair.
Et c'est ça qu'ils veulent empêcher, peut-être.
C'est ça
qu'ils veulent empêcher que tu mettes tout bout à bout à 18 heures.
C'est quand Gabriel Attal, c'est quand même un gamin à 30 piges, qui dit on empêche la période 18h, il sait ce qu'il dit. Enfin, Gabriel Attal est quand même, voilà ce que je veux dire, la société de la peur. C'est quand même Macron et toute sa clique qui le mettent en place. Et il y a quand même un truc, c'est que Macron, c'est un fan de Machiavel. Machiavel, il a un truc, c'est qui contrôle la peur des gens, maîtrise leur âme. Voilà. En fait, on est gouverné par ces gens-là. Et on sait par et pour quels intérêts Macron a été mis en place. Donc voilà, société de la peur, avec une classe dirigeante un peu plus imbue que ses droits. Enfin, voilà, une progression. Et face à ça, et pour finir, en fait, je voudrais profiter de cette antenne pour remercier profondément et pour saluer toutes les personnes qui ont participé et qui ont organisé la rave du 31, dont on a un petit peu parlé.
Du 31 décembre,
et qui l'ont revendiqué dans une superbe tribune dans Libération comme un acte politique de résistance. Voilà, parce que en fait, on en est là. On en est là maintenant. Le vivre ensemble et le temps partagé, ça va être un acte politique de résistance. Donc je voulais profiter de ce moment-là pour les saluer, pour dire que si on pouvait un moment apporter un soutien, eh ben, l'antenne, je pense, est ouverte et on fera tout ce qu'on peut. Et deux petits messages pour finir. En fait, pour l'extérieur... Eh ben dire regarder ou re-regarder V pour Vendetta, qui est un film assez sympa où on voit la mise en place d'un régime autoritaire suite à un problème médical. Hein. Et pour l'intérieur, eh ben écoutez, c'est pas très très original, mais beaucoup 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 de force à tous et à toutes, et continuons à construire ce lien et à maintenir ce lien qui est vital. Et dont on essaye de nous priver, voilà, de toute cette humanité, cette solidarité.
Merci Steph. Wow. C'est cool. Comme dirait l'AS, sympa le passage du Nouvel An à Fresnes. Ça gueule, ça crie, ça brûle des draps aux fenêtres, ça met des coups de pied aux portes, le bordel quoi. Aucun juge pourra enlever à l'homme l'envie de faire la fête.
Yes. Bien ouais. En fait, ça parle de vie, hein, parce que, comme toujours, là, dans cette chronique-là, là, dans cette histoire-là, là, il s'agit toujours de dire on essaye vraiment de nous faire disparaître. Là, je vais renvoyer, du coup, autre hommage à une autre grande gueule de cette antenne qui était à fête, qui disait juste on ne nous enlèvera pas la joie. Et la joie, c'est effectivement la joie de gueuler ensemble, la joie de se bagarrer ensemble. On l'a vu le 31 décembre dans cette rêve, on l'a vu effectivement en prison, il y a eu des feux d'artifice partout cette année, mais encore plus que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on était, et ça, gros big up à tous les gens qui ont fait ça à l'extérieur, parce que plus que même d'autres années, c'était encore plus compliqué d'aller faire ça cette année, d'aller faire des feux d'artifice devant les prisons pour dire on vous oublie pas à l'intérieur, et il y en a eu énormément partout. Moi, je veux relier encore à un autre moment, un autre hommage, du coup, qui relie aussi à la discussion qu'on a eue sur les gens qui se font tuer en prison. C'est ce rassemblement qu'il y a eu devant la tôle de Meaux, Choconin, pour exiger la vérité sur la mort de Djimoni. C'était il y a 15 jours, le dimanche d'il y a 15 jours, organisé par la famille, qui a organisé une marche blanche. Il faut dire à quel point c'est rare. C'est rare, mais c'est rare. On n'a pas vu ça, en fait, nous, là, de petite mémoire que constitue cette bagarre collective qui est envolée depuis 20 piges, on n'a pas vu ça depuis 20 ans. On n'a pas vu 500 personnes aller devant une prison autour de l'histoire d'une famille quand on n'est pas en centre-ville. C'est arrivé, il y a eu des rassemblements devant la santé, il y a eu des gens qui ont été à Fresnes, à Fleury, il y a 4 ans, on s'en rappelle, il y a eu, etc. C'est...
Même il y a moins longtemps.
Il y a un peu moins longtemps, il y a 2 ans aussi, mais ouais. C'était 50, 100 personnes, etc. Là, il y a 500 personnes qui rentrent sur le domaine pénitentiaire et qui vont jusqu'à la prison. C'est un moment très, très, très fort. Hein. C'est vraiment un moment très, très, très fort qui est très dur à décrire. Je pense qu'on fera un petit montage sonore qui passera. Il y a un montage sonore qui a été diffusé sur cette antenne aussi de FPP dans l'émission L'Actu des Luttes, où il y a un certain nombre de personnes qui ont pris la parole devant la prison qu'on peut entendre. Et vraiment, je vous conseille d'aller l'écouter. C'est sur Internet aussi. Puis on en refera autre chose aussi dans cette émission plus tard.
Il y a des vidéos aussi.
Il y a eu plein de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ça vaut vraiment le coup parce que c'est un moment très très fort où les gens prennent la parole pour dire voilà, on veut la vérité. Il n'y a pas de raison qu'on meure innocemment, c'est-à-dire qu'on meure sans qu'on sache rien sur nous, sur nos proches à l'intérieur de cette prison. c'est la famille qui l'exige. Famille rejointe, aidée, soutenue par d'autres familles de proches de gens qui sont morts sous les coups de la police à l'extérieur. Donc évidemment, ce lien, il était fait à cet endroit-là aussi, concrètement, devant la prison. Il a été dit, des gens l'ont dit, avec toute la différence qu'il peut y avoir, évidemment. Parce que à l'intérieur, là où s'affronter à la police et à la vérité pour obtenir la vérité de la police, c'est un monde, c'est déjà hyper compliqué. Et là, obtenir la vérité de l'administration pénitentiaire, c'est la deuxième grande muette, effectivement, on ne cesse de le répéter, tu n'as pas arrêté de le dire Elsa, tout à l'heure, en disant les paroles pour qu'elles sortent et pour qu'elles soient entendues, c'est hyper compliqué. Malgré tout ça, il y a le courage de se retrouver à cet endroit-là, la force de le faire, et ça fait péter un câble à l'administration pénitentiaire. Et là, on rejoint encore un truc que tu dis, Steph, sur le fait que ces gens ne font pas tout à fait le même métier que tout le monde. C'est-à-dire que quand ils voient 500 personnes qui sont devant en train d'exiger la vérité parce qu'ils ont perdu leur frangin, il est mort, le mec, il est mort. Les gens sont en train, ils sont dans la peine et dans la douleur de ce truc-là. Et la CGT pénitentiaire, pour ne pas la nommer encore une fois, parce qu'à force de faire gentil et d'être de gauche et de balancer des communiqués sur communiqués qui sont plus violents, insultants et fascisants les uns que les autres, ça commence à être un petit peu pénible. Donc portez plainte contre nous autant que vous voulez, mais on continuera à le dire autant qu'on veut, en fait. Ce que vous faites est inadmissible. Et je m'adresse à vous directement, qui nous écoutez sans doute depuis Moshokonin, divers matons syndiqués, etc. Ce que vous faites est proprement inadmissible, en fait. C'est juste, vous, en faisant ça, en continuant à publier ces communiqués, vous démontrez l'inhumanité dont vous êtes constitué. Et vous continuez à le faire, en fait. Ce jour-là, il y a 500 personnes qui sont devant cette prison en train de réclamer et de cracher leur tristesse et leur truc, sans même de haine. C'est-à-dire que même, il y a 20 gamins qui se mettent à taper sur le poste de contrôle en bas de la tôle, etc. T'as la moitié des gens qui sont là qui disent « c'est pas le jour pour faire ça, c'est pas le moment, on n'est pas là-dedans aujourd'hui. » On n'est pas là-dedans aujourd'hui. Et malgré ça, il y a un communiqué de la CGT qui sort une semaine après en disant, contre sa direction et contre l'administration pénitentiaire régionale, on en parlera de cet individu, on en parlera à la toute fin, qui disent « quoi ? Nous, quand on fait un feu de palette et qu'on fait un blocage, on se fait foutre dehors, et là, on laisse cette bande de bip, 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 parce que c'est la CGT pénitentiaire, donc ils disent pas les choses racistes que pensent tous leurs collègues et qu'eux-mêmes écrivent pas tout à fait exactement pareil. Mais c'est exactement ça, ce qu'ils pensent. Ils disent, ces gens, non pas, ces gens-là, qui sont de la même sous-humanité que les gens qu'on enferme et qu'on gère tous les jours, n'ont pas à venir nous demander des comptes devant chez nous, bordel. Et ils disent à leur direction, vous devez faire respecter ça, sinon c'est nous que vous méprisez, point. Donc en faisant ça, ils disent qu'il y a deux camps. Ils disent rien d'autre, ils disent... Il y a effectivement deux camps. Il y a la sous-humanité d'un côté et les gens qu'on veut continuer à considérer comme des sous-humains. Et il y a nous qui sommes des travailleurs, qui ne sommes pas respectés dans notre cadre de travail. Et bien entre les deux, nous ferons partie de la sous-humanité éternellement.
Il y a un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est quand tu parles d'une différence entre les violences, il y a une différence que tout le monde s'est appropriée et qui est une grosse erreur entre les violences policières et les violences carcérales, c'est que les violences carcérales s'exercent sur un coupable. Voilà. Et ça, il y a pas mal de gens qui peuvent penser que c'est légitime. C'est quand même une séparation qui ne doit pas nous appartenir et qui est une grosse erreur parce que la différence entre le coupable et l'innocent, c'est la loi. Et je vais dire, on n'a pas dit ça, mais juste avant d'être arrêté, le coupable était innocent. Et la loi, c'est un truc qui est fluctuant, on l'a vu avec des mouvements sociaux comme les jaunes, suivant les intérêts, la loi se déplace et désigne des nouveaux coupables. Voilà. C'est fluctuant et c'est éphémère. Donc il ne faut pas s'approprier cette dissociation et cette différenciation qui n'est pas la nôtre. Et à partir de là, quand on dépasse ces outils qu'on nous impose, eh ben, on voit ce qu'on a en face. On voit ce qu'on a en face et quand on est conscient de ce truc-là ou quand on a la chance d'eux, eh ben, ça crée des moments comme on vit là, ça crée des moments de solidarité, ça crée des choses qui ne veulent pas qu'elles existent. Donc en fait, de dépasser ces cloisonnements et ces cadres, eh ben, ça permet de créer des solidarités, ça permet de créer des moments et des réflexions qui les font flipper. Voilà. Et il faut dépasser.
Et non, mais juste pour revenir un peu sur la CGT et tout ça, aussi, ce qu'il y a dans ce communiqué, c'est de réprimer... à l'intérieur. Parce qu'en fait, nous, on vous parle de ce qui s'est passé à l'extérieur parce qu'on y était. Mais à l'intérieur, en fait, il y a eu un énorme blocage. Il y a eu plein de slogans et tout ça. Quand on est parti, on a entendu les prisonniers nous envoyer des messages et tout. Donc, il y avait des murs qui nous séparaient. Mais je veux dire, en fait, nous, on a vu qu'une partie seulement de ce qui se passait. À l'intérieur, ça bougeait de ouf. Voilà. Et ils sont restés jusqu'à 20h, je crois. Voilà. Et là-dedans, ils chouinent encore, parce que, enfin, la CGT, parce que les gars, ils ont vu leurs potes mourir à l'intérieur et tout ça, donc ils font un blocage. Ils savent qu'il y a ce rassemblement, ils nous entendent et tout, et ils bloquent. Voilà. Et ils pleurent. Ils pleurent qu'il n'y ait eu aucun transfert disciplinaire, tout ça. Et donc, voilà, la CGT qui dit « Ah non, nous, on ne syndiquera jamais les keufs », et c'est ce que tu racontais, là, Steph, en disant « Bah voilà, vu que les prisonniers, c'est des coupables, voilà, et que c'est tout ce truc, et bah, ils interdisent d'avoir des keufs qui soient syndiqués chez eux. Par contre, là, vu qu'on est sur des coupables, on a le droit d'avoir un syndicat de l'administration pénitentiaire et un syndicat de surveillants. Et c'est n'importe quoi. Enfin, tu l'as très très bien dit là-dessus. Voilà. Et d'un côté, ils disent non, les keufs, c'est des gens qui sont pas gentils et tout ça, comme si l'administration pénitentiaire, ça faisait pas aussi partie de tout ce rouage-là. C'est complètement absurde, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a des connexions qui se sont pas faites, quoi. Et...
C'est des connexions qui sont juste liées à l'histoire du mouvement syndical, de fait, veut pas officiellement syndiquer les forces de répression. Enfin, certains bouts du mouvement syndical issu plutôt de la gauche et à la base révolutionnaire qui est depuis très longtemps, mais admettons, qui veut pas syndiquer des gens qui sont des formes de répression officielles, en oubliant effectivement ce truc dingue qui consisterait à avoir la prison comme autre chose qu'un outil de répression. C'est quand même. Mais c'est aussi. Mais ça, c'est pas que.
C'est
parce que c'est l'ensemble de cette société là qui considère assez étrangement, mais comme tu dis, Stéphane, en disant que du jour au lendemain, en fait, c'est toi le délinquant, en fait. Qui oublie, comme disait Truss, cité par Le Gros en permanence aussi à ce micro, il y a toujours une place pour toi et ton fils, en fait. Ce truc-là, il est fondamental, quoi. Il y a toujours une place pour toi et ton fils, toi et ta fille, toi, ta cousine, ton frangin, ta sœur. Tout le monde l'oublie. Enfin, on nous fait l'oublier très, très, très fort. Voilà. On peut finir pour ça, peut-être par ça ce soir, peut-être par quelques brèves. On reviendra très, 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 très longuement, je pense, sur toutes ces histoires. Avec quand même comme truc central que ces syndicalistes, en l'occurrence, mais ces matons en général et l'administration de manière structurelle derrière, ne peut pas reconnaître que structurellement elle est violente, puisque l'entièreté de la prison repose sur cette violence systématique et systémique. Mais quand on dit qu'elle est systémique, c'est pas des grands mots d'universitaire islamo-gauchiste qui devient la grande insulte contemporaine. C'est juste que c'est la vérité, c'est dans la structure, et ils le savent très très bien. En fait, sans mitard, sans endroit où on peut tuer des gens dans l'angle mort total de la prison n'existe pas. La prison existe parce que, et de même que sans prison, notre société telle qu'elle est et telle qu'elle va mal et qu'elle fonctionne, et ne tient pas. En fait, là, voilà. Et de même que ça, c'est Laurent qui disait ça à cette antenne, effectivement, les prisons sont les mitards de la société. Eh bien, au sein de la prison, c'est le mitard de la prison, c'est l'endroit qui fait tenir l'ensemble de l'édifice. Le mitard, c'est-à-dire le quartier disciplinaire, et le QI, plus généralement, c'est-à-dire les quartiers d'isolement, comme l'ont toujours dit les prisonniers et les prisonnières qui sont exprimés à cette antenne. Donc, fin de l'isolement, fin des mitards, comme ça a toujours été dit en permanence. Et là, on s'attaque à la prison, en fait, en disant ça, évidemment. Ça leur plaît pas.
Pour les petites brèves, on souhaite un très mauvais accueil au nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, voilà, qui est un gars de l'intérieur, qui était celui qui était responsable au moment de la mort de Jimoni. Voilà,
il était responsable en Ile-de-France. Patron de la DISP d'Ile-de-France et il est devenu patron de toute l'administration pénitentiaire, là, cette semaine. Applaudi par tout le monde.
Donc voilà, et applaudi particulièrement sur les surveillants, parce que généralement, en fait, c'est de la préfectorale, donc les préfets qui se retrouvent généralement. Voilà, et là, c'est entre guillemets, enfin quelqu'un de l'administration pénitentiaire, qui en plus a fait partie des gens soi-disant humanistes, un peu à la Taubira, enfin on en a longuement parlé ici, des peines alternatives et tout ça, et donc en fait, Dupond-Moretti, enfin Super Dupont, qui est dans un truc un peu en train de dire « Ah putain, ça augmente le nombre de prisonniers, tout ça, ça, va, ça me va pas trop », mais en même temps, il peut rien y faire, enfin voilà, mais il est quand même très content que ça continue, comme tu le décrivais tout à l'heure avec Marine Le Pen, et il met un gars comme ça pour faire un peu guignol et puis qui vendra ce truc. D'autres trucs, parce que en fait on parle quand même de moins en moins du Covid en ce moment et tout ça. Faut pas oublier qu'actuellement dans énormément de tôles en France, le Covid il circule de ouf, voilà, que et surtout donc il y a des gens qui sont à l'isolement, ça veut dire voilà, et ça veut aussi dire qu'ils interdisent le linge pour plein de familles, ce qui est une putain de merde de ouf, enfin voilà. Pour parler de ça très brièvement, il y a une décision à Toulouse.
On en parle la semaine prochaine.
On passe sur les
parloirs. Sur le fait que c'est une petite victoire sur les parflex dans les parloirs. C'est une petite victoire dans le sens où elle est locale. Voilà. Et qui vont essayer de la contester. Mais on en parlera en long la semaine prochaine, peut-être avec l'avocat.
Et il n'y a toujours pas de loi de la part de Dupond-Moretti sur la détention provisoire, alors que le Conseil constitutionnel avait donné 5 mois pour le faire, et ils ne l'ont toujours pas fait. On passe les coucous.
Et courage à toutes et à tous. Hein, en fait, dans cette période noire, où on va festoyer sur le soi-disant abolition de la peine de mort, nous serons toujours là pour continuer à dire que la prison continue à tuer et que pour autant, des gens continuent à se bagarrer contre elle, à l'intérieur, à l'extérieur, et qu'on continuera à le faire dans les temps qui viennent.
Ouais, vu qu'on en a beaucoup parlé aussi, un grand salut et beaucoup de force à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un en prison. Souvent dans des circonstances super suspectes, et vraiment big up pour toutes les mobilisations, c'est fort, et courage,
c'est un
et
truc
bonne
de
suite.
On n'a pas le temps de citer tout le monde, mais plein de force, courage et détermination à tout le monde. Rediffusion mercredi matin à 8h30. À la semaine prochaine,
big up à tout le monde.
Il n'y a pas d'arrangement.